Bon matin. Merci pour ces beaux chants. C'est vraiment un honneur pour moi de terminer l'année avec vous, donner le dernier message de l'année. Donc, je sais qu'on est le 27 décembre, mais ce ne sera pas un message de Noël. Vous l'avez déjà eu la semaine dernière. Par contre, vous allez certainement pouvoir faire des liens avec Jésus. Des liens entre Jésus et un autre personnage biblique qu'on va voir ce matin. Donc, lors de mon dernier message, lors d'une réunion du mercredi soir, nous avons étudié ensemble la doctrine de la rédemption. Et lorsque je réfléchissais aux grandes histoires de la parole qui sont connectées ensemble, qui sont connectées à la grande histoire de la rédemption, bien, j'ai pensé à celle qu'on trouve évidemment dans Genèse 22. Dans ce passage-là, on trouve l'une des histoires les plus faciles à connecter avec l'histoire de la rédemption. Mais par contre, cette histoire-là, c'est aussi l'une des plus scandaleuses pour nous et une des plus difficiles à comprendre dans son contexte. Alors, notre tendance, c'est souvent de sauter à la fin, de sauter à la conclusion pour faire ressortir surtout le lien qu'il y a dans cette histoire-là avec la grande histoire de la rédemption. Mais ce matin, nous allons prendre le temps de l'examiner un petit peu plus en détail ensemble. Donc, l'une des choses que nous soulignons souvent lorsque nous étudions ce passage, c'est l'enseignement qui est donné sur l'adoration biblique. L'approche de ce matin, c'est évidemment le ministère de l'adoration. C'est expliquer un petit peu c'est quoi l'adoration biblique. Et ce n'est pas toujours l'approche qui est utilisée pour parler de cette histoire-là. Vous savez, l'adoration biblique, c'est une adoration qui est centrée sur l'Évangile. Et l'adoration, c'est au cœur de notre relation avec Dieu. Donc, c'est très important. Et vous savez, l'adoration, c'est quelque chose que même les non-croyants comprennent. Parce qu'on sait que l'être humain a été créé pour adorer. Mais pour les chrétiens spécialement, l'adoration, c'est aussi notre premier ministère envers Dieu. Jésus nous dit que c'est le plus grand commandement de la Bible. Il nous dit ça dans Matthieu 22, 37. C'est un ministère qu'on doit tous pratiquer. Mais si parfois le concept de l'adoration là, il nous semble un peu abstrait, c'est un peu quelque chose qui est difficile à expliquer. Si je vous posais la question ce matin, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici parmi nous? Pourquoi vous êtes rassemblés avec nous? Peut-être que j'aurais toutes sortes de réponses. Peut-être que c'est dans votre routine. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous venez ici parce que vous recherchez quelque chose. Peut-être que vous avez des besoins à combler. Certains prédicateurs vont nous dire que nous venons ici parce que on peut toucher à la présence de Dieu, on peut être dans la présence de Dieu, on peut toucher à la puissance de Dieu, on peut être rempli de sa puissance. Et si nous écoutions vraiment ces discours-là, qui sont véhiculés soit dans des enseignements ou même dans notre louange, si vous remarquez bien, notre adoration aurait l'air sans doute d'un grand plaidoyer pour obtenir la faveur de Dieu. Et nous serions en train d'espérer une sorte de transfert surnaturel de puissance, hein, pour qu'on puisse retourner ensuite dans le monde et être des vainqueurs et connaître le succès. Est-ce que c'est vraiment ça? On a déjà tous pensé un peu à ça. C'est une pensée qui nous effleure. En tout cas, moi, je combats vraiment ce genre de pensée-là qui m'influence parfois, qui me vient de l'extérieur, qui me vient des enseignements qu'on peut retrouver, même sur les médias sociaux et tout ça. Toutefois, il manque quelque chose dans cette vision de l'adoration-là. Et vous serez peut-être surpris de voir c'est quoi cette chose-là qui manque. Et je m'apprête à vous faire une déclaration ce matin. Et vous serez peut-être un peu surpris, vous serez peut-être un peu inconfortable au début, mais ça va aller. On va voir ça ensemble et je vais vous montrer pourquoi cette déclaration-là est vraiment conforme à ce qu'on retrouve dans la parole. Donc, voici cette déclaration que nous allons étudier ce matin. Le cœur de l'adoration n'est ni à propos de la présence ou de la puissance de Dieu. ni même à propos de la louange. Le cœur de l'adoration est à propos du sacrifice. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe dans Genèse 22. Voici une peinture assez choquante de cet événement-là qui se passe dans Genèse 22. Donc, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit l'ange de l'Éternel qui arrête la main d'Abraham. C'est une scène assez connue. J'ai choisi une peinture, la peinture qui était la moins choquante. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y avait beaucoup de choix, mais je trouvais que celle-là était était très représentative. D'ailleurs, Abraham est assez âgé, hein, comme dans l'histoire de la parole. Et Isaac aussi. Hein, j'ai pas choisi l'image où c'est un bébé, hein, parce qu'on sait qu'Isaac était assez vieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette image-là? Avant de répondre à cette question-là, on doit prendre un peu de recul. Si on observe les religions de notre monde, nous pouvons voir que le sacrifice est toujours au centre de toute adoration. C'est une pratique que la plupart des religions ont en commun. Hein, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans l'hindouisme, le judaïsme, plusieurs religions tribales aussi ont cette pratique-là. On peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi cela? C'est parce que les hommes savent en eux-mêmes qu'ils sont coupables, qu'ils sont voués à la mort. Et c'est une connaissance, ça, qui vient de Dieu. Les hommes, ils essayent toujours de trouver des substituts à offrir à Dieu à leur place. C'est dans leur nature. Et dans un tel système, le niveau de sincérité de la personne qui offre un sacrifice est souvent déterminé par la chose qu'ils offrent en sacrifice. C'est parfois un animal, parfois c'est plusieurs animaux qui valent très cher. Puis un tel système, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un phénomène mondial depuis toujours. Et il peut prendre différentes formes. C'est parfois un sacrifice symbolique, hein, une offrande des prémices, une offrande de fleurs de farine, toutes sortes de choses que vous pouvez aussi voir dans l'Ancien Testament, hein, n'est-ce pas? Et c'est parfois encore plus symbolique que cela, parce que nous lisons au sujet de sacrifices de louange dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, 15, ou de sacrifices d'action de grâce, Psaume 54. Et c'est de cela qu'il est question dans un cantique qu'on connaît très bien, hein, qui nous dit « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de reconnaissance. » Et nous entendons cela souvent au centre de notre adoration. Mais à quel mot portons-nous vraiment attention? Souvent, nous nous en tenons vraiment à la louange et à la reconnaissance. Et nous ne pensons pas beaucoup à l'idée de sacrifice. Le peuple d'Israël avait reçu des instructions bien précises sur la manière de faire les sacrifices. Ils savaient aussi quels animaux étaient acceptables et quels animaux ne l'étaient pas. Lorsque Salomon a eu terminé la construction du temple, le Seigneur lui est apparu pour lui dire qu'il acceptait. Il acceptait ce temple. Mais regardons ce que l'Éternel dit à Salomon. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » 2 Chroniques 7, 12. Donc, le temple était une maison de sacrifice. Une belle image du temple de Salomon en ce temps-là. Vous remarquez tous les endroits où on offre des sacrifices, c'est la fumée qui est omniprésente. Et c'est ce qui se passait encore et encore dans le temple. Et cela, ça rappelait au peuple de Dieu le poids de leur péché. Mais aussi, ça rappelait toute la sainteté de Dieu. Ça leur rappelait qu'ils avaient, en tant que pécheurs, une dette immense à payer. Il ne s'agissait pas d'une petite dette, parce que regardez toute l'ampleur du système de sacrifice qu'il y avait. Toute l'ampleur de ce système-là leur rappelait vraiment cela. Et même l'odeur des sacrifices était toujours présente, constamment. Le péché, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait oublier. Vraiment pas. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas les débarrasser du péché. Et c'est bien ce que Hébreux 10 nous dit, parce que ce n'est que plus tard qu'un sacrifice ultime allait être fait pour régler la question du péché une fois pour toutes. Donc, j'imagine que peu d'entre nous ont déjà vu un sacrifice d'animal, hein? Et nous serions certainement très mal à l'aise d'assister à un tel spectacle. Et à l'époque, le peuple, par contre, il voyait toujours cela. Par contre, il voyait aussi d'autres types de sacrifices, bien, bien plus choquants. Il voyait des sacrifices humains. Ça n'était pas ordinaire. Ce n'était pas quelque chose, par contre, qu'il voyait à tous les jours. Un commentateur dit ceci sur les pratiques du Proche-Orient ancien. Le Dieu qui produit la fertilité est en droit de demander une portion de ce qui est produit. C'est ce qui est démontré dans le sacrifice d'animaux, de nourriture et d'enfants. Pensez-y. Que ce soit en Afrique du Nord ou dans d'autres endroits comme en Phénicie, des textes anciens nous indiquent que le rituel des sacrifices d'enfants est un moyen d'assurer la fertilité. Les prophètes bibliques et la loi, que ce soit dans le Lévitique ou dans le Deutéronome, interdit explicitement cette pratique-là. C'est une pratique qui était devenue un problème. Écoutez ça, c'était devenu un problème, même dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y avait spécialement un dieu cananéen, probablement d'origine babylonienne, à qui on faisait ce genre de sacrifice. Et je vous montre cette image pour vous illustrer ce dont Abraham pouvait être témoin en son temps. C'est assez terrible comme image. Et encore là, j'ai choisi peut-être la moins choquante. Sans y passer trop de temps, il suffit de dire que les enfants étaient placés dans les bras de l'idole de Moloch que vous voyez ici. L'enfant roulait et tombait ensuite dans une fosse sous la statue, pleine de feu, où l'enfant était consumé. Et je n'ose même pas m'imaginer la scène. Mais l'histoire du sacrifice d'Isaac suggère qu'Abraham était familier avec les sacrifices humains. Il en avait vu, qu'il en avait été témoin et qu'il n'était pas surpris par la demande de l'Éternel. C'était une demande extraordinaire, bien sûr, même pour lui. Mais évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui était hors de question pour Abraham dans son époque. Mais comme on sait que cette pratique-là n'était pas quelque chose que Dieu attendait ou acceptait, ça soulève une question, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a-t-il demandé cela à Abraham? Pour l'instant, il nous suffit de dire que la loi n'avait pas été donnée à Abraham. Abraham ne savait pas encore que c'était quelque chose d'ignoble et d'inacceptable aux yeux de Yahvé. Mais il allait s'en apercevoir, par contre. L'homme moderne, lui, il est scandalisé par l'idée de sacrifice sanglant. Il ne peut même pas soutenir un tel spectacle. Vous savez, un archevêque de l'Église d'Angleterre a déjà même dit que l'idée de substitution pénale, c'est quoi ça? C'est-à-dire que Dieu est mort une fois pour toutes pour nos péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu. Cette idée-là serait en fait une forme d'abus cosmique d'un père envers son enfant. C'est assez fort, hein? Montrer à quel point ça choque l'image d'un sacrifice sanglant dans notre société aujourd'hui et même dans les religions d'aujourd'hui. C'est quelque chose. Cette idée-là de sacrifice, elle est choquante. Qu'est-ce qu'on a fait alors avec cette notion-là de sacrifice dans nos cultes, dans notre adoration? En fait, on a recentré bien souvent l'adoration sur une expérience. Sur une expérience d'où l'on peut retirer quelque chose. Donc, on a donc créé des cultes d'adoration qui ne reconnaissent pas l'importance du sacrifice et qui n'en demandent même pas de notre part. C'est assez grave. Soyons clairs, le sacrifice qui vous est demandé ce matin, qui vous est demandé par Dieu, et celui dont je vous parle ce matin, en son sens profond, là, ce n'est pas celui de votre temps, du temps que vous consacrez à vous déplacer ici, ou encore celui que vous faites en donnant une offrande. Mais c'est celui qu'on peut comprendre dans le contexte de ce passage-là de Genèse 22. Donc, la notion de sacrifice n'était pas seulement au centre de tous les cultes d'adoration dans le monde, elle était aussi au centre de l'adoration d'Abraham, et c'est ce que nous allons voir. Regardons maintenant ce chapitre. Nous n'allons pas l'examiner nécessairement dans l'ordre. Donc, dans ce chapitre-là, nous y voyons un voyage routinier. Donc, juste cela, ça vaut la peine de le souligner. Donc, c'est assez évident quand on lit Genèse 22, de voir ça. Abraham n'en était pas à son premier voyage ou à son premier rodéo. Hein, vous comprenez ça. Donc, lisons à partir du verset 6 jusqu'à 8. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père! » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Remarquez que ce qu'Isaac semble dire, il semble dire quelque chose. Hein, si je paraphrase ça, là, Isaac semble dire, « Ah, papa, on a déjà fait ça, je connais ça. Je sais c'est quoi ça, je sais ça aussi, c'est quoi, ça aussi, mais il manque quelque chose. Il manque une partie très importante, la plus importante. Le sacrifice faisait donc partie du culte d'Abraham et aussi du culte de son fils. Et cela s'est transmis à travers les générations. Remarquez dans l'Exode que Moïse ne dit pas seulement « Laisse aller mon peuple ». Il ne dit pas seulement ça. Il dit plus d'une dizaine de fois, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse ne pouvait pas comprendre ce qu'était l'adoration sans sacrifice. C'était la même chose pour Abraham et Isaac. Alors, Isaac demande à son père, « Où est le sacrifice pour qu'on puisse adorer? » On ne peut pas adorer sans sacrifice. Abraham, lui, il savait où il était. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il a obéi à Dieu, sans poser de questions. Abraham, vous savez, ce n'était pas un homme parfait. Si vous lisez toute son histoire, vous verrez qu'il avait bien des défauts. Toutefois, il y a une raison pour laquelle on se réfère souvent à lui comme le père de la foi. C'est que quand l'Éternel lui demande de faire quelque chose, il le fait. Et ici, ce que l'Éternel demande nous choque tellement qu'on pourrait être tenté de voir l'obéissance d'Abraham même comme un péché. On dit, comment il peut faire ça? Mais rappelons-nous que cette pratique est quelque chose qu'Abraham voyait. Et Yahvé ne lui avait pas dit que c'était interdit encore. D'autres dieux demandaient cela. Pourquoi l'Éternel, qui est encore plus grand, ne pourrait pas demander cela? Versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham! » Il répondit, « Me voici! » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Pensez-y. Pensez à toutes les objections qu'il aurait pu faire à Dieu. Pourtant, regardez entre le verset 2 et 3, on n'en voit aucune. Même lorsque le moment est venu, Abraham n'a pas hésité à offrir son fils. Pourtant, il avait fait un voyage de plusieurs jours avec son fils. Il avait vraiment tout le temps d'y penser. Et il se disait certainement que Dieu allait dire autre chose avant le moment fatidique. Parce qu'il avait aussi reçu la promesse qu'à travers Isaac, il aurait aussi une postérité nombreuse. Mais une fois rendu au temps de sacrifier Isaac, là, il ne devait plus être en train de penser que Dieu allait changer d'avis ou de proposer quelque chose d'autre. Mais pourtant, il se mit à la tâche. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Et en passant, comme vous avez vu sur la peinture, à cette époque-là, Isaac, ce n'était pas un bébé. Il était capable de se battre avec un vieillard de plus de 100 ans. Hein? Il était capable d'y résister et de l'empêcher de l'attacher. C'est pas ce qui s'est passé. Cette histoire-là, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une leçon d'obéissance de la part d'Abraham ici, mais c'est aussi une leçon d'obéissance de la part d'Isaac. Versets 10 à 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici! » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le sacrifice humain, c'était quelque chose d'extrême. Dieu a dû demander à Abraham quelque chose d'extrême pour démontrer sa foi à Dieu. Et ça nous fait réfléchir. Quelle est la limite de notre foi? Quelle est la limite de ma foi? Qu'est-ce que Dieu pourrait nous demander qui nous amènerait à lui dire non? Non, ça c'est trop. Pour plusieurs, Dieu n'a vraiment pas à aller très loin. Il n'a pas à aller jusqu'à demander leur fils ou leur fille. Hein? Ça, on le sait. En fait, pour plusieurs, il suffirait peut-être que Dieu leur demande leur retour. Peut-être que ça serait trop. Je ne dis pas ça pour nous faire sentir coupables, mais vraiment pour faire ressortir toute l'ampleur de cet acte de foi qu'on voit ici dans le texte. Abraham, lui, croyait en un Dieu tout-puissant qui pouvait même ressusciter les morts. Lisons les versets 4 et 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, hein, c'est-à-dire faire un sacrifice. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham ne dit pas qu'il va revenir seul. Il dit qu'il va revenir avec son fils. Wow! Abraham croyait fermement qu'il allait revenir avec son fils ressuscité. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qu'il dit dans Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Dieu avait fait une promesse à Abraham, et la seule façon dont il pouvait tenir sa promesse, tout en demandant cet acte d'obéissance-là de la part d'Abraham, c'était s'il ressuscitait Isaac. C'est incroyable. Abraham n'avait pas, à ce moment-là, toute la révélation de Dieu comme nous. Mais il avait toute une théologie, mes amis. L'idée de la résurrection, là, elle allait être révélée plus tard dans l'histoire de la rédemption. Mais Abraham savait que Dieu était un Dieu de parole. Il savait que Dieu était le Dieu de miracles et que sa femme Sarah n'était pas censée avoir d'enfant. Il savait que Dieu était un Dieu de miracles. Pensons à ce que cela nous enseigne par rapport à la manière dont nous vivons et dont nous raisonnons. Dieu n'a pas laissé sa situation. Abraham n'a pas laissé sa situation changer sa théologie. Et qu'en est-il de nous? Essayons-nous de créer notre propre théologie basée sur notre expérience ou avons-nous une vision solide de Dieu? Sommes-nous guidés par la parole de Dieu ou laissons-nous guider par nos expériences? Si c'est le cas, si on se laisse guider par nos expériences, une personne pourrait dire par exemple, « Ah oui, je vis une relation intime avec un non-croyant et je sais que la Bible me dit de ne pas mettre avec un incroyant sous un joug étranger, mais Dieu comprend ma situation. » Un exemple de théologie qui change selon notre expérience. Une personne pourrait dire, « En plus, s'il m'a permis d'aller aussi loin, bon, ça doit être pour une raison. » Mais ce n'est pas le genre de raisonnement qu'Abraham démontre. Une personne démontrant sa foi dira plutôt dans cet exemple-là, « Seigneur, je sais que ta parole me dit de ne pas me mettre sous un joug étranger, mais je désire vraiment cette personne-là. Seigneur, aie pitié, je l'aime vraiment. Mais je sais aussi que tu es un Dieu de parole et je vais abandonner ce projet-là. Parce que je crois que soit tu vas faire un miracle dans la vie de cette personne-là, et si ce n'est pas le cas, je crois que ce que tu m'as réservé sera encore meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. » Que vous soyez dans cette situation-là ou dans n'importe quelle autre situation comme ça, une situation où Dieu teste votre foi. Vous savez comme moi que trop souvent, on refuse de faire ce pas de foi-là avec Dieu. Un autre exemple. « Seigneur, mon mariage, il ne va pas bien, Seigneur. Oui, je sais que tu détestes. Tu détestes le divorce, mais tu dois aussi détester ma situation. Tu dois aussi détester le fait que mon conjoint me rende misérable. Tu comprends, Seigneur, pourquoi je veux divorce? Tu me comprends ma situation, Seigneur. » Hein, les exemples sont nombreux. Où nous changeons notre théologie en nous basant sur nos circonstances. Le centre de notre théologie tourne trop souvent autour de nous-mêmes, de nos circonstances et de notre bonheur. Alors que nous devrions plutôt, comme Abraham, mettre Dieu lui-même et ses promesses au centre. Trop de fois, nous pensons que ce que Dieu va faire d'extraordinaire va servir à nous garder heureux. Après tout, diront plusieurs, c'est la raison pour laquelle Dieu existe, pour nous garder heureux. Mais ce n'est pas le raisonnement, encore une fois, auquel Abraham s'accroche au verset 5. Il aurait eu bien des raisons de douter de Dieu. Si c'était arrêté à la souffrance que cette demande lui apportait. Je suis papa et j'ose même pas m'imaginer le choix déchirant qu'il a dû faire. Un choix déchirant pour obéir à Dieu. Comment Abraham était-il prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux à Dieu? Mais il s'est accroché aux promesses de Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Et Abraham savait que son Dieu pouvait faire ce qu'il n'avait jamais entendu ou ce qu'il n'avait jamais vu faire auparavant. Et ça nous amène au troisième point sur lequel nous allons réfléchir ce matin. Donc, nous avons vu que le sacrifice a toujours été au centre de l'adoration à travers le monde. On a vu aussi que le sacrifice était au centre de l'adoration d'Abraham et aussi d'Israël. Maintenant, regardons pourquoi le sacrifice est ce qui devrait être au centre de notre adoration. Et vous savez, je crois que Genèse 22 existe, entre autres, pour nous rappeler cette réalité-là. Enfin, ce chapitre-là nous rappelle pas seulement que le sacrifice est ce qui devrait être au centre de notre adoration, mais il nous rappelle que c'est un sacrifice bien spécial qui devrait être au centre de notre adoration. Le sacrifice par substitution. Donc, c'est exactement ce que Dieu a pourvu à Isaac, un substitut. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Ah, intéressant. Sans doute, même que le bélier, il était là depuis le début. Mais si un homme pense qu'il est sur le point de sacrifier son fils, de prendre la vie de son fils, c'est sûr qu'il doit avoir la mine à terre, comme on dit au Québec. Hein? Il doit avoir la mine basse, pas à peu près. Et il doit manquer bien des détails qui l'entourent, il doit manquer bien des choses. Hein? Imaginez-vous dans cette situation-là. Et il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie le bélier. On continue la lecture. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, c'était un substitut pour son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, manquez pas ça. Manquez pas ce détail-là. Qu'est-ce qui sera pourvu sur le mont Morija? Un substitut. Et pas seulement pour Isaac, mais pour tous ses descendants dans la foi, comme nous dit Galates 3, 7 à 9. Lisons 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, voilà notre adoration aujourd'hui. Mais pourquoi pouvons-nous offrir des sacrifices agréables? À cause du substitut que Dieu a pourvu pour nous. Lorsqu'il nous a donné la vie de son propre fils, plus tard, sur cette même chaîne de montagne où Abraham et Isaac se tenaient. On voit cela en lisant 2 Chroniques 3:1. Vous irez le lire. Abraham se tenait donc sur cette même chaîne de montagne, 2000 ans avant Jésus-Christ, un couteau dans la main, quand Dieu l'a arrêté et lui a dit de regarder le substitut qu'il avait pourvu pour lui. Voici ce qu'Abraham, par contre, ne savait pas. Dieu ne pointait pas seulement au bélier qui était dans le buisson, mais il pointait à un autre substitut, c'est-à-dire son fils Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui allait mourir à notre place sur le mont du Calvaire. Dans la même chaîne de montagne, 2000 ans plus tard, Dieu pointait au sacrifice qui est au centre de toute adoration authentique. Car c'est ce sacrifice-là qui nous rend purs. C'est ce sacrifice-là qui nous rend justes. Et quand nous venons à lui par la foi, c'est ce sacrifice-là qui rend notre adoration acceptable à Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Mais comment c'est possible? Comment ça se passe? Comment c'est possible? Ésaïe 53, 6 dit... Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sur la croix, Jésus a été notre substitut et notre péché lui a été imputé pour que nous n'ayons pas à mourir. Tout comme Isaac n'avait pas à mourir, nous n'avons pas à mourir. Parce que le Fils de Dieu est mort à notre place. La justice que Christ a gagnée par son obéissance active nous est imputée. Frères et sœurs, le sacrifice a toujours été et est encore le centre de l'adoration de toute l'humanité. Mais c'est une erreur de croire que nous avons quelque chose que nous pouvons sacrifier qui soit suffisant. Même s'il s'agissait de quelque chose d'aussi précieux qu'un être humain, et que même l'être humain le plus cher à vos yeux, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que les sacrifices sanglants dans l'Ancien Testament n'étaient pas corrects, mais le peuple ne connaissait pas toute l'ampleur de ce que ces sacrifices-là annonçaient. Aujourd'hui, le centre de notre adoration c'est encore le sacrifice. Jésus a fait de nous, qui sommes des disciples, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. On ne se réunit pas ici ce matin pour adorer pour notre bénéfice, de façon à manipuler Dieu afin qu'il nous donne une puissance pour vaincre le monde. Nous nous réunissons parce que nous savons que Dieu a payé pour nous une dette que nous n'aurions jamais pu payer. Christ est mort pour nous une fois pour toutes. C'est pourquoi nous louons Dieu en chantant des cantiques comme le cantique que vous connaissez bien, « Grâce infinie ». Quelle grâce infinie de notre Dieu qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Mon Dieu, mon Sauveur, a payé le prix pour mon âme. Dieu le juste a été satisfait en regardant Jésus et il m'a pardonné. Tout le monde essaie parfois d'offrir à un Dieu un sacrifice qui soit suffisant, mais Dieu seul a pu offrir une fois pour toutes un sacrifice suffisant. Quel est le sacrifice au centre de votre adoration? Est-ce le vôtre? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il soit satisfait uniquement par votre temps? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il soit satisfait uniquement par votre dîme? Non. Par n'importe quoi d'autre? Non. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel nous nous faillons être sauvés, nous dit Actes 4:12. Faisons attention au marchandage avec Dieu. Dans notre adoration, même au sein de notre adoration, si subtil soit-il, notre adoration est un acte de foi dans un sacrifice seul. Est-ce que le fondement de votre adoration est basé sur le sacrifice qui compte vraiment? Tous nos actes d'adoration devraient prendre leur source dans le sacrifice de Christ. Que nous ayons la passion de la prédication ou la passion du chant ou de la musique ou de n'importe quoi d'autre, ça n'a guère d'importance. Ce qu'il y en a, c'est d'avoir une passion pour Jésus, une passion pour ce qu'il a fait pour nous. Nos offrandes spirituelles ne seront agréables à Dieu seulement que si elles passent par la croix de Christ. Comme nous l'avons vu dans cette histoire d'Abraham et d'Isaac, notre adoration doit être faite par la foi et elle doit avoir un coût. Mais le coût que nous payons doit nous ramener à adorer Dieu pour le prix immense que lui-même a payé. Peut-être que votre adoration, elle est devenue routinière. Peut-être que vous êtes un peu blasé ou insatisfait de ce qui se passe ici le dimanche matin. Vous avez peut-être besoin de recentrer votre adoration, de détourner votre attention de vous-même. Une chose que nous coûte notre adoration, savez-vous c'est quoi? C'est notre égocentrisme. On ne peut pas exalter Dieu et nous-mêmes à la fois. Posez-vous la question. Est-ce que mon adoration a un coût? La demande que Dieu a faite à Abraham l'a certainement sorti de sa routine d'adoration quotidienne. Croyez-moi, si vous offrez au-delà de ce que vous êtes confortable à Dieu, votre adoration, elle ne sera pas routinière et elle ne sera pas stérile. Pour Abraham, ça l'a conduit à louer Dieu davantage et à le connaître d'une façon qu'il ne le connaissait même pas avant. Que Dieu fasse de nous, vraiment, frères et sœurs, comme il le fait avec Abraham, des hommes et des femmes qui l'adorent en s'abandonnant et en se soumettant totalement à lui. Prions. Seigneur, nous nous réjouissons dans le sacrifice de Christ pour nous. Seigneur, quelle joie pour nous de savoir que ce sacrifice nous a apporté la justification, qui nous a apporté l'adoption, qui nous a apporté la sanctification et la glorification qui a été octroyée envers nous par la grâce au nom de notre Seigneur et notre Sauveur. Garde notre adoration, Seigneur. Oh, garde notre adoration, afin qu'elle soit vraiment tournée. Tournée sur rien d'autre que sur le sacrifice de Christ. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.